Est-ce que ça vaut la peine?
Radio J.
Radio J.
Bonjour à tous, il est 5h, merci de vous réveiller avec nous sur Radio J. Vous pouvez nous écouter sur radioj.fr. Bienvenue à toutes et à tous dans le Grand Journal. Nous sommes le mardi 19 novembre et 101 personnes sont toujours otages à Gaza. Ne les oublions pas. Un Grand Journal que vous pouvez écouter sur radioj.fr et suivre en vidéo sur nos chaînes YouTube, X et Facebook. Tout de suite, les dernières infos avec Etanit Pelej. Bonjour Etanit.
Bonjour Steve, bonjour à tous.
À la une de l'actualité, en déplacement à Beyrouth, l'émissaire spécial du président américain au Moyen-Orient affirme qu'il existe une réelle opportunité de mettre fin au combat entre Israël et le Hezbollah.
Des propos tenus par Amos Hochstein suite à un entretien avec le président du Parlement libanais, Nabih Berri, en début d'après-midi, au sujet des efforts à fournir pour parvenir à une trêve entre Israël et le Hezbollah. C'est dans ce contexte que le chef du groupe chiite, Naïm Qassem, doit prononcer un discours dans la journée.
Le Hezbollah qui a tiré au moins 50 roquettes contre l'État hébreu depuis ce matin, blessant plusieurs personnes.
Une femme de 70 ans suite à l'impact d'une roquette sur sa maison à Carmiel dans le nord. Dans le centre, 5 personnes ont été légèrement blessées et évacué vers l'hôpital Laniado de Netanya. Et puis, en fin de matinée, Tsahal a abattu 2 drones qui se dirigeaient vers Israël depuis le Liban.
De son côté, Tsahal a éliminé 3 terroristes lors d'un raid dans la région de Jenin, en Judée-Samarie.
Des agents infiltrés de la police aux frontières ont encerclé un bâtiment à Kabatia où plusieurs Palestiniens recherchés étaient retranchés, multipliant les tirs pour en faire sortir les hommes armés. L'opération devrait se poursuivre dans les prochaines heures.
On revient à présent sur cette frappe du Hezbollah qui a visé hier soir la banlieue de Tel Aviv.
Frappe contre Ramat Gan qui a fait 5 blessés. L'impact a causé d'importants dégâts matériels et provoqué des perturbations au niveau du réseau électrique suite à l'endommagement d'un pylône haute tension, conséquence de l'interception d'un missile sol-sol du Hezbollah. Plus tôt dans la journée, une autre attaque a coûté la vie à Safa Awad, 41 ans, mère de 4 enfants, tuée par un missile à Shfaram dans le nord du pays. Un garçon de 4 ans et 2 femmes de 41 et 70 ans sont toujours hospitalisés à l'hôpital Rambam de Haïfa avec à leur côté 2 femmes enceintes.
Israël a frappé des infrastructures nucléaires iraniennes à la fin du mois d'octobre.
C'est ce qu'a révélé le premier ministre israélien hier dans un discours de politique étrangère prononcé devant la Knesset. Benjamin Netanyahou a précisé que les forces israéliennes avaient détruit un élément du programme nucléaire iranien lors des frappes aériennes sur l'Iran le 26 octobre, tout en dégradant les capacités de défense et de production de missiles de Téhéran. Benjamin Netanyahou a également fourni des détails sur les frappes d'avril, révélant qu'Israël avait alors détruit l'une des 4 batteries de missiles solaires d'origine russe autour de Téhéran. Autre ennemi de l'État hébreu ciblé par le chef de l'exécutif hier à la Knesset, le Hamas. Écoutez.
Nous avons les moyens d'éradiquer les capacités politiques du Hamas. Pour ce problème en particulier, j'ai demandé à l'armée d'élaborer un plan précis pour éradiquer la capacité gouvernementale du Hamas, y compris sa capacité de distribuer l'aide humanitaire. Nous voulons nous assurer et protéger cette distribution d'aide humanitaire qui ne sera ni volée ni détournée par le Hamas. Et bien sûr, nous devons ramener tous les otages de Gaza.
Le premier ministre israélien hier devant le Parlement.
Et dans ce contexte, le ministre iranien des Affaires étrangères a réitéré ses menaces contre Jérusalem.
Nous mettrons en œuvre notre future attaque au moment opportun, a promis Abbas Araghchi ce matin. A noté qu'hier, l'Union européenne a décidé d'interdire l'exportation, le transfert et la fourniture depuis l'Union de composants utilisés dans la fabrication d'armes par l'Iran, ainsi que l'utilisation de ports iraniens comme Amirabad ou Anzali sur la mer Caspienne. Une décision prise dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Iran est accusé de soutenir l'effort de guerre de Moscou en lui livrant notamment des drones et des missiles.
La guerre entre l'Ukraine et la Russie qui en est à son 1000e jour, Kiev jure de ne pas capituler alors que le Kremlin menace d'utiliser des armes nucléaires contre les Ukrainiens.
L'Ukraine affirme que ses forces ne se rendront jamais à la Russie 1000 jours après le lancement par Moscou de son invasion. Le président russe Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas de lui-même a lancé le président ukrainien lors d'une intervention diffusée par vidéo devant le Parlement européen ce matin. Chaque coup et chaque menace de la Russie doivent être suivis de sanctions fermes, a-t-il insisté. Volodymyr Zelensky.
Nous devons tout faire pour mettre fin à cette guerre de manière juste et équitable. Et bien sûr, ensemble, 1000 jours de guerre, c'est un énorme défi. L'Ukraine est obligée de faire de l'année prochaine l'année de la paix.
Volodymyr Zelensky, le chef d'État ukrainien, dans un discours diffusé devant le Parlement européen. La Russie accuse désormais l'Ukraine d'avoir frappé son territoire avec des missiles américains à longue portée dans la nuit. Une accusation qui intervient 2 jours après que Kiev a reçu le feu vert de Washington pour tirer des missiles américains vers la Russie.
Une réunion d'urgence doit se tenir aujourd'hui à Bruxelles sur la question de l'antisémitisme.
Réunion organisée par le ministre français chargé de l'Europe, Benjamin Haddad. Objectif, évoquer de potentielles mesures à prendre au sein de l'Union européenne pour lutter contre la haine anti-juive quelques jours après les violences subies par des supporters du Maccabi Tel Aviv en marge d'une rencontre face à l'Ajax Amsterdam dans les rues de la ville néerlandaise le 8 novembre dernier. À ce sujet, une polémique enfle aux Pays-Bas après la remise en question par la maire d'Amsterdam de l'utilisation du mot pogrom pour qualifier cet événement, Daniel Haïk.
Femke Halsema, c'est le nom de la maire de Amsterdam, a en effet accusé Israël d'utiliser ce terme de pogrom dans le cadre de, je cite, sa propagande et de l'instrumentaliser. Les déclarations de Madame Halsema sont inacceptables, a affirmé hier le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar sur son compte X. Non seulement il y a eu ce soir-là un échec, mais il s'est aggravé par une tentative de dissimulation. Saar a souligné que l'utilisation du terme pogrom n'est pas venue des Israéliens, mais bien de plusieurs élus hollandais après que ceux-ci aient reconnu la gravité des faits.
Notre correspondant en Israël, Daniel Haïk.
En France, la mobilisation agricole continue. La coordination rurale veut faire monter la pression en bloquant le fret alimentaire.
Opposés notamment à un accord de libre-échange avec les pays latino-américains du Mercosur, les agriculteurs poursuivent effectivement ce mardi leur mobilisation. Plusieurs répondent aux appels de la coordination rurale dans un contexte de rivalité avec le syndicat majoritaire de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Le syndicat assure se tenir prêt s'il n'obtient pas satisfaction à bloquer le fret alimentaire à partir de demain, d'abord dans le sud-ouest de la France. Le président français Emmanuel Macron, en déplacement au Brésil dans le cadre du sommet du G20, assure être du côté des agriculteurs.
Nous sommes fermes, nous sommes clairs. La position que je défends depuis 7 ans, elle a toujours été défendue. J'ai toujours protégé nos agriculteurs. Ils savent que quand je prends des promesses, je les tiens. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, la France n'est pas isolée et plusieurs nous rejoignent, je m'en félicite.
Le président français a noté que le gouvernement va proposer un débat à l'Assemblée et au Sénat, suivi d'un vote sur la question.
Merci Tanit, on vous retrouvera dans 20 minutes environ pour le rappel des titres à suivre, le carrefour politique du Grand Journal.
Radio J. Steve Nadjar.
Franck Riester était ce matin l'invité de Christophe Barbier dans le morning de Radio J et le député EPR Seine-et-Marne était appelé à commenter les dernières brouilles diplomatiques entre Paris et Jérusalem. On l'écoute.
La relation entre la France et Israël multiplie les tensions récentes, les propos du président de la République, des incidents par exemple avec le monastère Eleona. Est-ce que le gouvernement français doit rompre avec le gouvernement Netanyahou ?
Écoutez, c'est pas moi qui prends ce genre de décision puisque je suis... député, c'est au gouvernement de prendre ce type de décision. Moi, je vous dis, cette question du conflit entre Israël et d'autres pays de la région et la situation dans les territoires palestiniens est une situation très complexe, très difficile à juger depuis Paris. Vous savez, quand vous êtes israélien et que depuis des dizaines d'années, vous vivez dans la peur de voir des roquettes tirées par un certain nombre de personnes soutenues par des puissances étrangères, qui n'ont qu'un objectif, c'est votre disparition. Vous n'avez forcément pas la même façon de regarder les choses que quand vous êtes tranquillement ici à Paris. Donc, et de la même façon, quand vous voyez un certain nombre de populations tuées, populations civiles, à Gaza notamment, on comprend la colère et on comprend aussi la volonté de cesser le feu d'un certain nombre de personnes dans ces territoires-là. Et donc, il faut beaucoup de mesures, laisser le gouvernement français veiller à conduire la politique diplomatique qui est la sienne de façon respectueuse des différentes sensibilités et d'arriver à terme à ce qui est l'objectif qu'on doit retrouver, c'est-à-dire la sécurité pour Israël, la libération des otages et à terme le cessez-le-feu et les deux États.
La solution à deux États, ça reste la position de la France.
Oui, parce qu'il faut, garder cet objectif qui permet ensuite, à notre avis, d'avoir la paix dans la région.
C'était le député Franck Riester ce matin au micro de Christophe Barbier que vous retrouverez demain à partir de 7h45 dans le morning.
Je remettrai demain matin ma démission au président de la République.
Il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures.
Quand on prend les Français pour des abrutis, en général, ils s'en souviennent.
Il est hors de question que nous puissions rentrer dans un gouvernement qui augmente les impôts.
Je ne vois pas en quoi cette procédure complètement infondée est utile aux Français.
Et donc, évidemment, nous censurerons.
La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis.
Bonjour Steve.
Et merci de nous rejoindre en direct et en studio. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juste qui sortira en kiosque demain. Peut-être un mot sur la une, Alexis ?
Oui, alors on va la faire porter sur les débats relatifs à la conscription, notamment des Haredim et puis
en Israël.
Exactement, c'est un vaste débat de cette semaine. Vous voyez, donc c'est autour de ces questions-là que nous allons creuser, ce qui est l'occasion d'ailleurs de revisiter une longue tradition qui est celle du sionisme religieux, lui beaucoup plus impliqué en revanche dans la participation à l'effort de guerre existentielle.
Et ça sera en kiosque dès demain. Rappelons qu'on peut s'abonner, qu'il faut s'abonner à Actualité Juive pour suivre et comprendre l'actualité israélienne notamment. Alexis, on s'intéresse avec vous, une fois n'est pas coutume cet après-midi, à la politique internationale en ce 1000e jour de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Hier soir, Emmanuel Macron a apporté son soutien à la décision de l'administration Biden d'autoriser l'armée ukrainienne à utiliser des missiles américains de longue portée à longue portée contre le territoire russe. À deux mois de l'entrée en fonction de Donald Trump, Alexis, est-ce qu'un axe Biden-Macron est en train de se dessiner, de se redessiner pour éviter que l'Ukraine ne s'écroule et n'arrive trop fragilisée lors d'éventuelles négociations avec Moscou ?
Alors, je vais vous faire une réponse qui n'est pas de Normand. Probablement. Mais justement, il faut qu'on voit sur la longue durée. En réalité, depuis maintenant près de 3 ans, c'est-à-dire l'entrée en guerre violentissime de Poutine, avec tous les aspects dictatoriaux et illibéraux que comporte son régime contre l'Ukraine, en réalité, cet axe, en dépit parfois de divergences stratégiques ponctuelles, ne s'est jamais démenti. Macron incarnant un pôle, j'allais dire, de modération, peut-être par rapport à d'autres capitales européennes. On pense notamment à Varsovie ou à Londres. Mais en réalité, sur la longue durée, le président de la République française, dont on peut par ailleurs critiquer les orientations globales de la politique, ne s'est jamais véritablement démarqué de Biden sur le dossier russe. Par parenthèse, je le dis au passage, il ne s'est jamais véritablement non plus démarqué de Biden en réalité sur la ligne, vous savez ce que je vais dire, sur la ligne relative au conflit entre Israël et les proxys terroristes de l'Iran, en réalité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il a eu des incartades langagières, mais sur
même
le
si
fond...
Même s'il a critiqué le soutien militaire américain ces derniers mois.
Bien évidemment, mais sur le fond de la stratégie, en réalité, ce n'est pas le sujet de notre chronique, mais Joe Biden comme Emmanuel Macron n'ont cessé chacun dans leur registre et chacun avec leurs moyens rhétoriques, discursifs, communicationnels, de poursuivre le même objectif, défendre la sécurité d'Israël, mais paver la voie à ce qui sera peut-être, dans un deuxième temps, l'option politique ou le moment politique. Alors revenons à nos moutons.
Justement, est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait appliquer la même décision aux armes qui sont envoyées à l'Ukraine ? Est-ce que les Ukrainiens pourraient être autorisés à utiliser des missiles français vers le territoire russe ?
Si on prend au pied de la lettre les déclarations d'Emmanuel Macron accompagnant la décision de Joe Biden, qui est un peu, on va le commenter par rapport à Trump, qui est un peu une manière de marquer son territoire avant de céder son bureau ovale, de ranger les dossiers et d'y laisser entrer son concurrent. Voilà ce que dit le président français. C'est sur la ligne de Biden, dans la ligne démocrate américaine. C'est une décision qui est tout à fait bonne. Je comprends qu'elle a été déclenchée aussi par un changement profond dans ce conflit. Et il ajoute, alors là, on retrouve le Macron, si vous m'autorisez l'expression, géostratège, pour lequel je n'ai nulle adulation, mais nul mépris non plus. Vous voyez, il faut être équitable dans le commentaire. Il ne mérite pas notre commisération, ce n'est pas un imbécile. La seule puissance qui fait une escalade de ce conflit aujourd'hui, c'est la Russie, en engageant à ses côtés la Corée du Nord, qui est, on le sait, une puissance très agressive, engagée sur un programme nucléaire avec des missiles de très longue portée. La phrase n'est pas très jolie, il redit 2 fois engagé, mais enfin, on sent l'idée. L'idée, c'est qu'il y a un axe du mal de plus en plus maléfique, avec la Russie, la Chine probablement derrière, même si elle a des intérêts divergents, même et si évidemment, laissez-moi finir ma phrase, et une puissance terroriste comme Pyongyang. Oui, je vous en prie.
Même si la Chine, vraisemblablement, s'inquiète aussi de la présence de soldats nord-coréens, de la participation de la Corée du Nord à ce conflit-là.
À l'évidence. Alors, justement, là, on a montré en quoi contrairement à beaucoup de commentateurs qu'on avait entendus pendant des mois, voire des années, il n'y a pas de divergence si fondamentale sur ces dossiers clés, j'allais dire, pour l'avenir du monde, de ces équilibres internationaux et aussi de ce qu'on appelle la paix dans le monde, tout simplement. Il n'y a pas, cher Steve, de différence clé entre l'administration de Washington et le gouvernement français et son président. Voilà, en réalité. Maintenant, pourquoi maintenant ? 1000 jours, vous avez raison, c'est un anniversaire symbolique. On va bientôt vers les 3 ans, le 22 février 2025. Donc ça commence à durer. Il n'y a pas d'issue véritable. D'ailleurs, Alain Bauer, à notre micro l'an dernier, le criminologue, le disait si justement, si on fait rien, c'est une guerre qui peut durer 50 ans. 50 ans. C'est ce que pensent d'autres géostratèges que vous recevez dans votre excellente émission Géopolitique. Le MAG, j'en profite pour faire de la pub. Pour
jeudi soir, 21h.
Maintenant, merci, pourquoi Alex. Ils font ça maintenant ? Évidemment, vous avez compris. Nous aurons, avec Trump, une présidence qui aura sans doute ses qualités, qui va miser sur la haute technologie avec Musk, etc., pour contrer la Chine sur son propre terrain, celui du transhumanisme.
Trump qui a promis de régler cette crise en 24 heures.
Voilà. Mais par ailleurs,
arrivé au pouvoir.
Voilà. Mais par ailleurs, nous avons un fort à bras, un fier à bras, comme on dit, qui joue les hommes forts, et je suis un dealmaker, j'y vais, je fonce, et je vais mettre tout le monde d'accord. On verra. Mais en tout cas, c'est une manière de le prendre de vitesse. C'est-à-dire de dire, écoutez, il fait le malin, on verra bien ce qu'il sait faire entre Zelensky et Vladimir Poutine. Nous, par avance, c'est le message implicite en réalité que font passer Joe Biden et Emmanuel Macron, nous, par avance, nous pensons que le deal futur que l'administration Trump va vouloir passer, laissez-moi finir ma phrase, vous allez comprendre, risque de se faire de facto au détriment du plus faible des deux protagonistes, qui est, qu'on le veuille ou non, même s'il est monitoré par les Américains, qui est le plus faible des deux protagonistes, Bernard-Henri Lévy le rappelle à juste titre très souvent, et il a évidemment raison, c'est l'Ukraine démocratique de Zelensky avec tous les défauts par ailleurs qu'on lui connaît. Et donc effectivement, de la part de Biden et de Macron, c'est une façon d'afficher, je vais le dire avec mes mots, une ligne géostratégique anti-réaliste et même aussi anti-isolationniste. Pourquoi je vous dis isolationniste ? C'est pas par hasard, c'est qu'on se prépare à partir de janvier à une présidence américaine qui, sur beaucoup de dossiers, sera dealmaker froid, mais aussi on jette les clés, on règle les problèmes, on jette les clés et on se retire sur notre île continent. C'est ça l'isolationnisme.
Même si on peut imaginer, Alexis, que Donald Trump et son équipe feront certainement un bon usage de cette nouvelle carte qui a été apportée.
Je ne vous ai pas dit le contraire.
J'ai ajouté. Je voudrais vous faire réagir à des déclarations de l'entourage justement de Donald Trump qui se montre sceptique, voire parfois très critique de cette décision de Joe Biden. Prenons un exemple assez symptomatique, je crois, la réaction de Mike Valls, c'est le prochain conseiller à la sécurité nationale américain de Donald Trump. Il a indiqué sur Fox News que cette décision marquait une nouvelle étape dans l'escalade. Personne ne sait où cela va nous mener, a-t-il ajouté. Est-ce que pour vous, Alexis, Donald Trump est finalement une forme de catalyseur?
De catalyseur de la désescalade, vous voulez dire ?
Pour les dirigeants européens et occidentaux, qui les conduit à prendre des décisions plus fortes.
Vous avez absolument raison, évidemment. On revient à ce que nous avons dit dans une chronique de la semaine dernière. Au-delà de Macron, oublions Macron, il n'est pas le seul concerné. La plupart des dirigeants européens, Olaf Scholz, même si bon, il va peut-être devoir céder la place, mais aussi, bien évidemment, d'autres dirigeants, les Italiens, Madame Meloni, les Polonais, ils commencent à réfléchir de plus en plus à ce que signifie la victoire de Trump. Vous voyez, je ne suis pas en train de le présenter comme un nouvel Hitler, ce serait absurde et un contresens total. En revanche, que signifie cette présidence ? Elle signifie un défi existentiel lancé à l'Europe. Pourquoi ? Pas parce que Trump va déclarer la guerre à l'Europe, évidemment que non. Mais en revanche, il ne fera aucun cadeau aux Européens. Et c'est ce qu'anticipe, avec beaucoup de préscience, la plupart des dirigeants européens. D'où le terme, si vous voulez, de mon raisonnement, puisque vous m'y amenez. Il y a de plus en plus d'effervescence autour de la constitution nécessaire d'une Europe dite puissance. Vous voyez, c'est le terme historique de Pierre Moscovici, d'Hubert Védrine, l'Europe puissance. L'Europe puissance, c'est quoi ? C'est une Europe qui est capable de porter elle-même le fardeau. Porter le fardeau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne pas dépendre totalement des États-Unis, mais ça veut dire aussi, dans l'esprit de ses dirigeants, préserver ce qui peut l'être du fameux lien transatlantique. Pourquoi on a une insistance actuelle de nombreux dirigeants européens ? Je termine.
Une phrase, Alexis.
Oui, cher Steve. Pourquoi on a une insistance actuelle de nombreux dirigeants européens sur l'OTAN ? Et c'est parce qu'ils savent bien que l'OTAN, c'est le pilier sur lequel ils vont, à terme, s'ils y parviennent, je ne suis pas en train de vous dire que c'est fait, pouvoir construire cette défense européenne autonome. Si nous allons dans le sens de ce que certains Trumpistes excités voudraient, c'est-à-dire le burden sharing qui consiste à ne plus du tout financer l'OTAN, eh bien, il n'y aura pas d'autonomisation du continent européen. Donc, vous voyez, l'Europe est de plus en plus le dos au mur, et pour elle, c'est, on peut l'anticiper, un des tests de vérité, ça va être sa capacité à peser sur le futur deal cynique trumpiste entre Zelensky et Poutine.
Merci Alexis Lacroix, bon après-midi.
À vous aussi.
Radio J. Steve Nadjar. Radio J.
Une première pause dans le Grand Journal, ne partez pas trop loin, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de votre émission. Nous serons en compagnie de Pascal Zonshine depuis Jérusalem et du président du CRIF, Jonathan Arfi, sur la convention nationale de l'association qui se tiendra dimanche prochain. Restez avec nous, vous êtes bien sur Radio J. A tout de suite.
Radio J.
Bonjour, c'est Annabelle Chaud. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi de 15h à 16h20 avec un invité dans mon émission sur Radio J. Interview, confidences, jeux, défis. Aux artistes comme vous ne les avez jamais entendus, c'est dans le Annabelle Chaud, le late show de l'après-midi, du lundi au jeudi à 15h sur Radio J.
Radio J. Les voix du judaïsme de Maurice Ruben Ayoun. Bible, Talmud, Ashkenaz et Séfarade, pratiques synagogales et piété personnelle, tradition et réforme. C'est avec pédagogie que Maurice Ruben Ayoun nous fait voyager des origines à aujourd'hui. Cette galerie encyclopédique montre la fécondité intellectuelle qui a permis au judaïsme de ne jamais être en retard d'une modernité dans un attachement indéfectible à l'identité d'Israël. Les voix du judaïsme de Maurice Ruben Ayoun. Les éditions du CERF. Un livre riche, accessible, stimulant. Radio J. Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Radio J.
C'est déjà le retour du Grand Journal. Merci d'être avec nous sur Radio J pour la deuxième partie de votre émission à suivre en direct sur radioj.fr, sur l'appli Radio Player France et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Direction maintenant Jérusalem.
Radio J.
Osei shalom bimromav.
Nous, יקבלו. לא יתנו, לא יקבלו.
חברים, החדשות טובות.
אנחנו פועלים ללא לאות להחזיר את כל חטופינו.
ילדינו מסתכלים עליהם. מה אנחנו רוצים שהם יראו?
פסקל זונשיין.
On a le plaisir de retrouver Pascal Zonshine. Bonjour Pascal.
Bonjour Steve.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Amos Hochstein est au Liban et l'émissaire spécial américain se montre, Pascal, plutôt optimiste, considérant qu'il existe une réelle opportunité d'aboutir à la fin des combats entre Israël et le Hezbollah.
Oui, Amos Hochstein est actuellement reçu par le chef du gouvernement libanais, Najib Mikati, un peu plus tôt. L'émissaire du président Biden a eu un entretien avec Nabi Berri, le président du Parlement libanais, une conversation que le diplomate américain a qualifiée de très constructive. Il y a une réelle occasion de mettre un terme au conflit. Je suis revenu à Beyrouth pour y aider. Les écarts se comblent, mais en dernière instance, la décision revient aux deux parties, a déclaré Amos Hochstein. Nabi Berri, qui négocie pour le compte du Hezbollah, a déclaré que sa rencontre avec l'émissaire du président américain avait été positive et très encourageante et qu'on s'approchait d'une solution. Amos Hochstein devrait arriver en fin de journée en Israël, porteur de la réponse libanaise, alors que plusieurs points restent encore à régler, notamment sur l'application du cessez-le-feu et le contrôle du Hezbollah. On sait qu'Israël tient à conserver un droit d'intervention permanent en cas de violation de l'accord par le Hezbollah ou de l'échec du dispositif de contrôle international à le faire respecter.
Pascal, hier, Benjamin Netanyahu s'est montré très critique de l'administration Biden lors d'une prise de parole à la Knesset et il a apporté de nouveaux détails sur l'étendue des frappes sur le territoire iranien le 25 octobre dernier.
Oui, hier, le Premier ministre israélien avait répondu à la convocation de 40 députés qui lui ont demandé un point sur la conduite de la guerre et la situation des otages. À la tribune de la Knesset, Benjamin Netanyahu a notamment confirmé que lors des frappes du 26 octobre contre l'Iran, l'aviation de Sahel avait détruit des batteries de défense antiaérienne, une large partie de la capacité iranienne de production de missiles balistiques, mais aussi un élément spécifique du programme nucléaire militaire de l'Iran. Le premier ministre israélien faisait allusion au centre de recherche nucléaire de Parchin, dont le site d'information Axios avait révélé qu'il avait été une des cibles de l'opération israélienne le mois dernier. Benjamin Netanyahu a par ailleurs affirmé qu'à plusieurs reprises, il était allé contre l'avis de son allié américain, notamment concernant l'offensive terrestre dans la bande de Gaza et en particulier l'entrée de Tsahal dans Rafah. Le premier ministre israélien a aussi évoqué les réticences du président Biden à la riposte d'Israël après les deux attaques de l'Iran.
Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous en direct de Jérusalem. On peut vous réécouter sur radioj.fr. À demain Pascal.
Radio J, le grand journal, Steve Nadjar.
On retrouve à présent le président du CRIF. Bonjour Jonathan Arfi. Ah, on me dit qu'il est que Jonathan Arfi va nous rejoindre dans quelques instants, dans moins de 5 minutes maintenant, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Puis nous recevons en troisième partie Jonas Belaïch dans le cadre de l'appel national pour la Tzedaka. Jonathan Arfi est avec nous. Bonjour à vous Jonathan.
Bonjour.
Et merci de nous rejoindre. Le CRIF organise dimanche prochain sa 14e convention à la Maison de la Chimie à Paris. Une journée marquée, comme de coutume, par des conférences, des tables rondes et des débats autour du thème « Penser le monde d'après ». Jonathan Arfi, après, c'est d'abord et avant tout le 7 octobre et c'est retombé dans le monde occidental.
Oui, le 7 octobre a été une fracture dans l'histoire des Juifs au XXIe siècle, une histoire évidemment traumatique pour Israël, mais une histoire aussi scindée après le 7 octobre pour les Juifs de diaspora et en particulier pour les Juifs de France. Nous avons vu le 7 octobre avec ses répliques antisémites partout en Europe et bien au-delà, et nous avons besoin de penser ce monde qui s'ouvre, qui n'est plus le même que celui que nous avons connu avant le 7 octobre. Et quoi qu'il se passe demain au Proche-Orient, nous savons que les séquelles du 7 octobre seront présentes dans la société française.
Avec une aggravation de la situation en Europe ?
Oui, une aggravation très claire de la situation. On a vu, bien sûr, les images d'Amsterdam qui ont été, au fond, un révélateur de ce qu'il se passe aujourd'hui dans les sociétés européennes, cette menace qui plane sur l'avenir des Juifs d'Europe. Être juif aujourd'hui en Europe, c'est vivre fondamentalement avec un point d'interrogation sur notre capacité à se projeter dans l'avenir, le sentiment d'avoir perdu nos certitudes, d'avoir perdu nos repères, et nous l'espérons, de ne pas avoir perdu tous nos soutiens. Nous avons une séquence après 7 octobre où nous avons vu monter en puissance la voix de nos ennemis, monter en puissance aussi certains de nos amis, mais malheureusement pas suffisamment pour permettre d'éteindre la menace qui aujourd'hui s'affirme. C'est le sens de cette convention nationale que de penser ensemble ces questions-là avec 80 intervenants sur toute une journée, une vingtaine de tables rondes, des intervenants qui sont à la fois politiques, experts et intellectuels, journalistes, artistes, pour tous ensemble essayer de définir les contours de ce que sera ou de ce qu'est maintenant le judaïsme en diaspora.
Et c'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui clôturera cette journée.
Oui, traditionnellement, la convention du CRIF est clôturée par le ministre de l'Intérieur. Ce sera le cas également cette année avec Bruno Retailleau. Sa parole est attendue évidemment à l'issue d'une séquence que nous avons connue qui a eu cet épisode important autour du match France-Israël et dont il parlera bien entendu, j'imagine. Nous avons beaucoup de personnalités politiques également qui viennent au cours de la journée. Pour nous, c'est un moment un peu à part parce que, vous savez, le peuple juif a peut-être cette capacité plus que les autres, ou cette mission plus que les autres, de rester le peuple de la question et pas celui des réponses toutes faites. Et cette journée, ben, c'est un peu ça mis en acte, des moments d'interrogation collective, de questionnement pour essayer de contribuer au débat public dans notre pays et qui est un élément de salut public pour la démocratie.
Jonathan Arfi, vous parliez d'Amsterdam à l'instant. Le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, sera également présent. Il a organisé ce matin une réunion d'urgence des ministres des Affaires européennes sur l'antisémitisme. C'est au niveau européen qu'il faut agir face à ce fléau. Il faut coordonner les réponses maintenant.
Oui, c'est au niveau européen parce qu'une partie des phénomènes dépasse les sociétés nationales. Je pense à la question des réseaux sociaux, bien sûr, dont on voit bien qu'aucune régulation nationale ne parviendra à contenir la poussée de haine et de que nous avons besoin d'une régulation au minima européenne pour contenir le phénomène. Un phénomène européen également au niveau de la question de l'islamisme. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'un certain nombre de démocraties européennes ont des grilles de lecture sur la question de l'islamisme qui sont très différentes des nôtres et qui tolèrent des éléments très radicaux sur leur sol. Mmh. Et on a besoin là-dessus d'harmonisation européenne, d'un combat commun, de renseignements partagés, mais aussi d'une vision partagée face à la radicalité islamiste. Et puis, à l'échelle européenne aussi, s'interroger sur la condition juive. Il y a 120 ans, au début du XXe siècle, 90% des juifs du monde vivaient en Europe. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. C'est une question et un défi lancé à toute l'Europe. Comment faire pour que le judaïsme d'Europe ne s'éteigne pas ? Voilà la responsabilité qui pèse aujourd'hui sur les chefs de gouvernement de toute l'Europe.
Merci beaucoup, Yoel Tel-Harfi, d'avoir été avec nous pour nous présenter cette convention nationale du CRIF qui se tiendra dimanche prochain à Paris, à la Maison de la Chimie. Bon après-midi.
Merci.
Radio J, 5h30, bonjour et bon réveil. Merci d'être avec nous dans le Grand Journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. À suivre, le rappel des titres. Et le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Steve, bonjour à tous. L'émissaire spécial du président américain au Moyen-Orient estime qu'il existe une réelle opportunité pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah. Amos Hochstein est aujourd'hui en déplacement au Liban pour avancer sur un potentiel cessez-le-feu sur le front nord. Les élections municipales retardées depuis plus d'un an dans le sud d'Israël sont en cours. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h du matin dans les conseils régionaux d'Eshkol, de Rof Ashkelon, de Shaara Negev, de Sdot Negev et de Sderot. Pour l'heure, le taux de participation environne les 15% selon le ministère de l'Intérieur. Alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine est entrée dans son 1000e jour, Moscou accuse Kiev d'avoir frappé son territoire avec des missiles américains à longue portée. Aucune revendication côté ukrainien à ce stade. Enfin, en France, le gouvernement va proposer un débat au Parlement suivi d'un vote sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur. Un accord notamment contesté par des agriculteurs qui poursuivent leur mobilisation.
Merci Tanit, on vous retrouvera dans une demi-heure pour un nouveau journal en direct sur Radio J.
Radio J.
Radio J. Radio J.
Mais en attendant, voici le programme de la prochaine demi-heure. Juste après la pause, je recevrai Jonas Belaïch dans le cadre de l'appel national pour la Tzedaka. Vous écouterez également Fabien Antoniente et Chaim Issembaum pour Judaïsme dans la Cité. Le Grand Journal revient dans un instant. A tout de suite.
Écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Je n'ai pas dit mes derniers mots. Un seul en scène de Bernard Bitan. Un spectacle percutant, engagé et émouvant. Bernard Bitan met des mots sur les mots du peuple juif.
Bernard Bitan revient avec son spectacle à l'Écuge. Lundi 18 et jeudi 21 novembre à 20h30.
Écuge, 119 rue Lafayette, Paris 10. Réservation sur écuge.fr.
Écuge.fr.
Je n'ai pas dit mes derniers mots de Bernard Bitan.
Spectacle d'actualité et solidaire d'Israël en partenariat avec Radio J.
Ça, c'est uniquement sur Radio J.
Vous écoutez Radio J. Radio J.
Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Radio J.
Très bon après-midi à l'écoute du Grand Journal. Vous êtes sur Radio J, vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et en vidéo sur nos chaînes YouTube, X et Facebook. Place maintenant à l'entretien de cette édition.
Radio J, l'invité du Grand Journal.
Radio J. Steve Nadjar.
Jonas Belaïch, bonjour à vous.
Bonjour, merci de m'avoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de l'appel national pour la Tzedaka. Jonas Belaïch, vous êtes délégué général du FSJU, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et vous dirigez le CASIL, l'équivalent du CASIP à Lyon. Commençons, Jonas, par un tableau un peu général. Quelles sont les caractéristiques de la situation sociale de la communauté juive de la région ?
La communauté juive de la région, on considère aujourd'hui qu'il y a entre 15 et 25 000 juifs en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça dépend sur la police ou les manifestants qui vous demandez. Mmh. Et on a aujourd'hui...
Réside plutôt dans quelle grande ville ?
On a 80% à Lyon, oui. Avec Villeurbanne, c'est collé, on les considère en un. Après, on a Grenoble, 1500 juifs à peu près, Aix-les-Bains, avec le double. Et après, ça reste quelques centaines encore à Saint-Étienne, à Dijon, etc. Mais les plus gros sont donc le Lyon, Grenoble et Aix-les-Bains avec les Chivas et toutes les familles assez pratiquantes qui vivent autour.
Est-ce qu'il y a des dynamiques de mouvement interne, je ne sais pas, vers Saint-Étienne vers Lyon ou de Grenoble vers...
On est toujours intéressé par cette géographie juive. Des gens qui bougent, bien sûr. Il y a encore 10 ans, il y avait des villes comme Roanne qui étaient avec plusieurs milliers de juifs, Saint-Étienne plusieurs milliers de juifs. Mmh. Aujourd'hui, plus du tout. On considère à peu près qu'il y a un quart qui vient dans la capitale régionale qui est Lyon. Il y a la moitié qui quitte pour Paris. Ouais. Et un quart qui part entre Israël, Miami, Los Angeles.
Les population plutôt jeune et plutôt retraitée, comme on peut le voir en Île-de-France.
Ouais, on a un bon mix. On a vraiment encore un peu tout, parce qu'il y a encore des écoles juives à Lyon, parce qu'il y a encore de très bonnes facs à Lyon et des écoles de commerce, etc. Donc, on a encore de la jeunesse qui est ici. Mais c'est vrai que plus ils sont jeunes, plus ils décident de quitter Lyon pour d'autres lieux.
Qu'est-ce que ça donne sur le plan social, socio-économique?
On a une paupérisation vraiment de la population qui vit ici. Parce que pendant longtemps, il n'y a pas eu ce travail social qu'on aurait pu espérer, comme il y a dans d'autres grandes villes, comme à Paris, par exemple. Il n'y avait pas de mastodonte social qui a pu quand même proposer des programmes pour les sortir. Donc, on a une bonne partie qui continue à bien vivre, et toute la partie plus pratiquante, plus orthodoxe, avec une partie en yeshiva et en kollel, etc., qui décroche un peu peut-être de la moyenne nationale sur le niveau de pauvreté, etc.
Alors, c'est pour répondre à ces défis que vous avez créés avec votre équipe il y a 2 ans, une épicerie solidaire cachère. Comment fonctionne-t-elle et qu'est-ce qu'on y trouve?
Alors, on y trouve après tout ce qu'on aurait trouvé, vous et moi, dans une épicerie cachère. À la seule différence que les prix ici sont entre 10 et 30% du prix réel que les gens pourraient avoir dans une épicerie classique. Elle fonctionne uniquement sur rendez-vous. Il faut d'abord passer par l'assistante sociale. Qui va faire une évaluation de la situation et qui va déterminer le montant auquel vous avez le droit, le nombre de passages que vous pouvez faire, en fonction du nombre de personnes dans la famille, mais aussi en fonction du niveau vraiment de précarité de la famille.
Oui.
Et une fois que le rendez-vous est pris, elles ont accès par exemple pendant 6 mois, elles viennent une fois par semaine remplir leur caddie. Ce qui est très fort pour nous, c'est qu'elles participent, elles achètent leurs denrées. Donc vraiment, nous, on a appliqué le principe que donne Maïmonide dans la Torah à propos des niveaux différents de tzedaka, de justice sociale. Étant donné que le plus digne est celui où les gens participent eux-mêmes au processus de cette sortie de crise. Eux-mêmes ont la dignité de choisir ce qu'ils veulent mettre dans leur caddie. Et vu que c'est eux qui donnent de l'argent, ils ont plus l'impression de profiter d'un bon plan.
Oui.
Plutôt que d'avoir juste une main tendue quand c'est fait.
Comment vous avez réussi cette prouesse d'obtenir, proposer des tarifs très avantageux pour les produits de consommation?
Alors, c'est un boulot c'est un boulot à part, vraiment logisticien, de négociation avec les fournisseurs. Au début, on bossait qu'avec les revendeurs présents qu'on a partout dans toutes les villes juives de France. Mmh. Et puis, ces mêmes revendeurs nous ont donné l'adresse de leurs fournisseurs pour qu'on puisse travailler avec eux en direct. Donc, on arrive à négocier des prix qui sont 15 à 20% moins chers que ce qu'on pourrait acheter sinon on achetait demain chez le dernier maillon de la chaîne, quoi, chez Hypercacher ou autre. Il y a 10 à 30% qui sont payés par les bénéficiaires. Et le reste, c'est uniquement de la tzedaka, de la collecte d'argent de fonds privés, de gens comme vous et moi qui vont faire leurs dons à la campagne nationale de la tzedaka en ce moment, par exemple, autopromo gratuite. Mais
c'est le moment et c'est le lieu.
C'est vraiment comme ça qu'on la finance. Et on a parfois, et ça c'est extraordinaire aussi, je les remercie, des gens qui même des fois possèdent des supermarchés et qui nous font des dons en nature de manière assez forte.
Jonas Belich, combien de personnes sont touchées par ce programme en particulier?
Alors ce programme cette année, sur les derniers mois depuis septembre, il a aidé 207 familles tous les mois, ce qui fait à peu près plus de 850 personnes, parce que chaque famille est composée différemment. Mmh. Mais on sait que idéalement, on devrait avoir le double de personnes. On sait qu'il y a encore 200 familles au moins dans la communauté qui sont dans le besoin.
Et pourquoi vous ne les touchez pas encore? Elles ne sont pas suffisamment informées? Elles sont gênées peut-être?
Pour l'instant, c'est surtout une question de fond. Il faut pouvoir les aider. Si on veut les aider vraiment de manière forte, c'est-à-dire que vraiment, le but qu'on a au CASIL ou au Fonds social, c'est de développer un parcours d'assistance. C'est pas juste un coup de pouce comme ça, ponctuel ou qui devient habituel toutes les semaines où on a un panier. C'est vraiment de travailler avec les usagers sur un projet qui va améliorer leurs conditions de vie. S'ils sont assez jeunes et assez partants, ça peut être des formations qu'on les aide à trouver. C'est d'abord s'assurer qu'ils reçoivent toutes les aides que l'État met à leur disposition, ou la région ou le département. On a un pays extraordinaire pour ça. une bonne partie du boulot de l'assistante sociale professionnelle qu'on a, c'est de débloquer toutes les aides françaises auxquelles ils ont droit. Et donc après tout ça, c'est vraiment essayer de sortir les gens de ce moment-là. Donc dès que quelqu'un sort, on en fait rentrer un nouveau. Mais effectivement, on n'a pas encore tous les fonds pour pouvoir aider l'entièreté des personnes qui en auraient besoin ici sur Lyon ou la région, parce qu'on travaille aussi sur... Pareil, on a un même programme sur Grenoble. Alors, c'est pas une épicerie à proprement parler. On aide les gens directement de là-bas avec des bons alimentaires. Mmh. Pareil pour Aix-les-Bains, où on envoie aussi pareil des bons alimentaires pour qu'ils puissent se fournir à la macolette locale.
Quel est le profil sociologique de ces bénéficiaires? Ce sont plutôt des familles nombreuses, des femmes isolées, des personnes dont la retraite ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins premiers?
On a beaucoup de femmes isolées. On a beaucoup de femmes mamans célibataires. Mmh. Ou même de parents célibataires, même si la majorité sont des femmes. C'est vraiment la typologie numéro un. Et en deuxième, on a effectivement des personnes...
Et ça, c'est nouveau, Jonas Vilaïch ? C'est nouveau ?
Ça a explosé. C'est marrant parce qu'on suit toutes les évolutions de la société classique, nationale, française. C'est-à-dire que le nombre de familles explosées, monoparentales, a effectivement été multiplié par 2-3. Là, moi, ça fait 3 ans que je suis cette métrique depuis... très, très rigoureusement. Ça a été multiplié par 2 ou 3, le nombre de familles qu'on suit, qui se retrouvent avec qu'un seul parent. La plupart du temps, les deux parents sont en vie. Hein. Je ne parle pas de gens qui malheureusement seraient orphelins ou quoi que ce soit, mais plutôt des problèmes sociaux intrafamiliaux. Ça a fortement explosé avec des cas particuliers de femmes qui officiellement ont divorcé depuis plusieurs années, mais sont bloquées par un guette lent ou ce genre de famille-là, bien sûr. Non, mais ça, c'est la typologie numéro un. Et on a aussi, c'est vrai, pas mal de gens qui sont en pré-retraite ou retraite. Ça veut dire qu'ils sont à la fin de leur job, ils n'ont pas pu non plus cotiser toute leur vie. Donc ils savent qu'ils ont une très petite retraite qui les attend, le coût de la vie augmente, et d'un mois à l'autre, ils se retrouvent dans le rouge à plus pouvoir acheter comme ils le souhaitaient les denrées dont ils avaient besoin ou subvenir à leurs besoins pour la semaine qui vient.
Alors vous avez également créé ces dernières années une maison de la famille, notamment pour les femmes victimes de violences. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des relais qui vous permettent d'identifier des personnes qui seraient dans une urgence absolue et qui auraient besoin de se poser quelque temps?
Alors le problème qu'on a dans la communauté en général, c'est que dès qu'on parle d'assistante sociale, ça fait très peur aux familles. La première image qui nous vient en tête quand on parle d'assistante sociale à une famille, c'est ils vont placer mes enfants. Donc on a beaucoup de familles et même de femmes qui sont victimes de violences de leur mari, qui n'ont pas envie de venir voir une assistante sociale, même si elle est juive, même si c'est une association juive, etc., de peur qu'une enquête sociale qui en découlerait les priverait de leurs enfants ou les ferait placer dans des familles non juives ou encore plus dures, des foyers d'accueil qu'on peut avoir ici. Donc pour les identifier aujourd'hui, on travaille beaucoup, c'est vrai aussi, avec quelques rabbinim. C'est un sujet assez tabou encore chez nous, hein, les familles victimes de violences, malheureusement. On voit que les gens bougent, que lorsqu'effectivement les violences sont avérées, répétées, très visibles, ce qui malheureusement représente que 10 à 15% des cas. Il y a plein de violences qui se voient pas sur le visage ou sur les mains, et il y a plein de femmes qui ne vont pas en parler. On n'a pas encore eu de mari victime de violences, même si ça existe en France. Mais donc, on avec quelques rabbinim courageux, quand ils rencontrent ces femmes-là, elles sont aiguillées vers nous. On a aussi beaucoup bossé avec toutes les personnes qui s'occupent des bains rituels. Les responsables des mikvés, les baalanistes qui sont là et qui, elles, justement, ont un moment d'intimité avec les femmes, plus nues que ça, c'est pas possible. Donc, et pour le coup, elles se confient aussi pas mal à ces baalanistes qui, parfois, soit nous remontent des cas, mais c'est assez rare, ou en tout cas, préviennent les femmes que si elles ont besoin, nous, on peut être là avec à leur disposition un appartement, justement, pour se poser, comme vous le disiez, réfléchir.
Vraiment, et un accompagnement psychologique également ?
Exactement. On a des psys en freelance qu'on paye à la vacation, qui vont faire ce début de soins. Elles vont pas faire une psychothérapie à long terme avec nos usagers, mais vraiment le but c'est d'évacuer déjà le trauma, de devoir quitter son foyer, de prendre ses enfants sous le bras, de reconnaître qu'elles sont victimes de violence. Il y a tout ce travail-là.
Donc
à faire,
ces femmes ne sont pas séparées de leurs enfants lorsqu'elles elles rejoignent cette maison de la famille.
Non, elles ont toujours peur. C'est vrai que quand elles vont quitter la maison familiale. De devoir laisser les enfants, ce qui n'est pas du tout une obligation. Elles peuvent partir avec les enfants. Enfin, attention, parce qu'effectivement, si elles quittent, elles partent vraiment loin ou sans donner de nouvelles, le conjoint peut trop bien les attaquer pour kidnapping ou ce genre de choses. Mais en tout cas, en cas de violence avérée, elles peuvent le faire, se mettre à l'abri, porter plainte. Et nous, on les accompagne dans ce chemin-là. Elles ne portent pas toutes plaintes. Et nous, ce n'est pas une obligation de les forcer à porter plainte. On respecte vraiment ce timing de la victime, celle qui va décider ce qu'elle veut faire de sa situation. Et elles ont deux types d'accompagnement à part l'assistante sociale et le logement, si elles en ont besoin. C'est donc la psychologue dont on parlait, et d'une juriste et avocate spécialisée en droit de la famille, pour mettre au calme toute la situation.
Pour terminer, je voudrais que vous nous parliez des jeunes de la région. Comment est-ce que vous les mobilisez ?
Ça a été un peu long, parce que pendant des années aussi, pareil, les mouvements de jeunesse ici étaient un peu en jachère. Voilà, il y avait beaucoup d'activités dans les synagogues, mais très peu en dehors. Ça veut dire que si vous n'étiez pas sur le WhatsApp ou l'Insta de la Sina de votre quartier, vous n'aviez pas accès à ce genre d'événements, de soirées, etc.
Et il y a beaucoup de jeunes et d'ados qui ne fréquentent pas régulièrement la synagogue ?
Oui, il y en a une bonne partie. Il y a une bonne partie qui sont en école non juive, et qui vont avoir comme seul lien un Talmud Torah, le dimanche matin, au mieux. Donc pas forcément à 13 ans, la majorité arrête le Talmud Torah. Dès qu'ils ont passé la bar mitzvah, et ils quittent le Talmud Torah. Donc quand ils sont ados, un ou deux ans plus tard, ils sont plus en lien avec ces synagogues, etc., pour vraiment avoir du lien social et faire d'autres choses. Donc on a aidé des mouvements à se relancer, comme le DEJ, les EI. Ici, des parents se sont mobilisés pour en recréer un qui s'appelle JJL, Jeunesse Juive Lyonnaise. Ouais, pour les marketing, c'était facile. Et on les a vraiment aidés à se développer, créer des activités et tenter dans chaque activité de mettre un peu d'engagement, un peu d'identité. Voilà. C'est que quand ils vont faire une activité, même fun, d'aller faire un karting ou n'importe quoi, il y a un moment intéressant, soit sur l'identité, soit sur l'actualité, soit sur leur montrer l'engagement. Et puis après, c'est un effet un peu boule de neige. C'est-à-dire qu'on chope un ou deux qui veulent bien venir nous accompagner pour déposer une chanoukia et passer un moment avec des beignets vers des personnes isolées, qui va amener deux, trois copains la première année. Et là, cette année, on en est à une trentaine de jeunes qui, à chaque fête, vont chez des personnes isolées pour leur rendre visite. Ouais. Et maintenant, ils y prennent goût. Donc ça, c'est super sympa. Et aussi, participent aussi beaucoup en tant que bénévoles à l'épicerie solidaire pour achalander, remettre dans les rayons, etc. Donc, c'est comme ça, c'est que ce partenariat que ça marche.
Merci beaucoup, Jonas Belaïch, d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes délégué général du FSJU de la région Auvergne-Rhône-Alpes, directeur également du CASIL. Nous vous recevions à l'occasion de l'appel national pour la Tzedaka, dont vos actions bénéficient. Je rappelle le site Tzedaka, tzedaka.fsju.org. Bon après-midi, à très bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Radio J. Steve Nadjar.
Du football à présent dans le Grand Journal, vous étiez peut-être avec nous, en tout cas je l'espère, hier soir pour Classico, l'émission foot de Radio J tous les lundis de 21h à 22h. Et on revenait notamment hier sur le coup de mou et les déboires du moment de Kylian Mbappé. Écoutez les analyses de Fabien Antoniente, réalisateur du film 4-0 et du rédacteur en chef de l'After, la revue, Thibaut Leplat.
Joueur qui est vraiment lasse. Est-ce qu'il a vraiment envie d'aller à Clairefontaine? Je sens beaucoup plus de lourdeur qu'on...
Non mais t'as raison, ça sur la perte d'explosivité, sûrement qu'il voit au stade pas mal. Tu vois deux choses, tu vois effectivement une perte d'explosivité. Et Thierry Urquef a parfaitement raison, il est lourd au sens qu'il porte quelque chose.
Ouais, il porte quelque chose
sur le dos.
Sur les épaules.
Voilà. Ouais. Et deuxième chose, qu'il est déconnecté en fait de l'équipe. Et tu le vois parce qu'il a tout le temps la tête baissée.
Oui.
Et le seul moment où il lève la tête, c'est pour regarder son image dans l'écran. Et tu vois faire comme ça. Et en fait, le classico, il est 8 fois hors jeu sur 12. Je me souviens au stade, les gens voyaient, tout le monde voyait qu'il était en jeu. Ça se voyait sur un des derniers. Et t'as même des gens à côté de nous qui se levaient, qui disaient, voilà, t'avais tous les gens qui disaient, arrête de faire l'appel. On le voyait parce qu'il part loin. Et tout le monde voyait qu'il était en jeu. Et lui était totalement déconnecté, en fait, de sa propre place dans l'espace. Et vis-à-vis de ses coéquipiers. Et effectivement, je pense que je sais pas si c'est dépressif ou pas, parce que ce qui est curieux, c'est que dans cette affaire, tout le monde puisse en parler. Ça choque personne. Moi, j'ai eu le malheur une fois de parler d'un joueur dépressif qui avait fait une tentative de suicide à Nice. L'agent m'a appelé en me disant ouais, qu'est-ce que c'est, vous n'êtes pas psychiatre. Je me suis fait traiter tous les noms. C'était pas les termes qui étaient employés. C'était des termes beaucoup plus fleuris.
Tu penses que Mbappé et son clan vont apprécier.
Il est en burn-out.
Ils vont apprécier cette sortie de Deschamps. Il en fait presque un élément du débat autour de Mbappé.
On sait des relations entre Mbappé et son clan.
Entre Deschamps et le clan de Mbappé.
Non, entre Mbappé et son clan. Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe quelque chose ?
Il se passe nécessairement. Moi, je dis ça entre nous, c'est de la pure interprétation. Mais parce que j'ai lu Freud, parce que j'ai lu un certain nombre de textes sur ce sujet-là, il y a une rupture qui est en train de se préparer. Ouais. Il y a quelque chose qui se prépare.
Déjà, il faut savoir.
Il porte. Il n'y a pas besoin d'être.
Classico à réécouter sur radioj.fr, sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre chaîne YouTube.
Radio J, le grand journal, Steve Nadjar.
Bonjour Jaime Sembaum.
Bonjour à tous.
Et merci de nous rejoindre. Avant la fin du Grand Journal, vous êtes notre chroniqueur du mardi autour de judaïsme dans la cité. Et en marge des 1000 jours de la guerre en Ukraine et par ailleurs de la possibilité d'un cessez-le-feu prochain en Liban, on en parlait tout à l'heure avec Pascal Sunshine, je voudrais qu'on discute cet après-midi de la guerre et des conditions d'établissement de la paix selon le judaïsme. À quoi est-on prêt à renoncer, cher Jaime, en échange de la paix ?
Alors n'oublions pas que la guerre est perçue par le judaïsme comme une situation anormale, bien entendu. On ne recherche pas la guerre, au contraire, on fait tous les efforts nécessaires pour aboutir à la paix. Cependant, il y a des règles. Il y a des règles de conduite de la guerre et il y a des règles d'établissement de la paix. On a par exemple des phrases, des lois, des règles, des halakhot extrêmement sévères, qu'on pourrait dire bellicistes, dans le Shulchan Aruch, dans le code des lois juives. On nous dit par exemple que si un ennemi se rapproche d'une ville, eh bien, même s'il ne vient pas pour prendre la ville, s'il vient par exemple uniquement pour voler du chaume ou les récoltes de blé, c'est-à-dire quelque chose de très secondaire. Eh bien, une sorte de razzia, et pour quelque chose de pas très précieux, puisqu'on cite le cas de chaume, de la paille. Eh bien, si c'est une ville qui est proche de la frontière, on doit immédiatement déclencher la guerre contre lui. Et même si c'est un Shabbat, on n'hésitera pas, dit le texte, à prendre les armes.
Une guerre localisée contre cet ennemi-là, ou passer la frontière et aller...
Eh bien, tout ce qui sera nécessaire, parce que si l'ennemi parvenait à s'installer là, et à conquérir peut-être la ville, il aurait ainsi ouvert la frontière, et ça nous parle évidemment, il aurait ouvert la frontière, et à ce moment-là, le reste du territoire serait ultérieurement pour lui facile à conquérir. Et je crois que véritablement aujourd'hui, c'est cette problématique-là qui est devant nous. Oui, on doit faire des concessions parce que la paix est toujours préférable à la guerre, parce que la guerre est une chose inhumaine, et qu'on ne peut pas soutenir une guerre en aucun cas, avec tous les malheurs qu'elle entraîne dans tous les camps. Mais la guerre ne doit pas cesser à n'importe quel prix, parce que si elle cesse à n'importe quel prix, elle n'est que le point de départ d'une nouvelle menace et d'une guerre qui sera peut-être plus terrible. C'est le sens de cette partie du Shulchan Aruch, du Code, qui nous dit précisément, attention, la vulnérabilité du pays ne doit pas être accentué. Si jamais le renoncement, ce serait dans le cas qu'on a cité, ce serait par exemple, je renonce à mon chaume dont je n'ai pas véritablement besoin, qu'il le prenne, ça n'est pas grave. Puis on lui dit non, parce qu'en réalité, on a laissé une porte ouverte. Si on laisse une porte ouverte, ça veut dire que demain, il reviendra.
Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément de l'ordre... du militaire ou de la stratégie. On est dans le cadre de la halakha et donc de ce qui est légal ou pas.
Absolument.
Et donc ça ne relève même pas, presque pas, de la décision politique qui pourrait être aller dans un sens ou dans un autre en fonction du dirigeant et des intérêts du moment.
Alors n'oublions pas qu'à l'époque où le Shulchan Aruch est écrit, la décision politique est guidée par la halakha. Bien entendu, la séparation entre le spirituel et le matériel est passée par là. Aujourd'hui, évidemment, on va raisonner autrement, on va dire que c'est une affaire de négociation politique. Mais en quoi est-ce important de le dire aujourd'hui ? Parce que ces principes doivent être normalement ceux qui guident la décision politique. Bien sûr, tout cela doit être adapté aux conditions de la réalité d'aujourd'hui. Mais malgré tout, il y a ici des éléments de réponse. On ne peut pas vouloir la paix uniquement pour vouloir la paix sans penser au lendemain. On ne peut pas renoncer, par exemple, à assurer la sécurité de la frontière, à assurer la sécurité des villes qui se trouvent à proximité de la frontière.
Vous parliez, Chaim, des conditions posées par le Shulchan Aruch, par la Halakha, sur le déclenchement d'une guerre. Est-ce qu'il y a des halakhot également sur... la manière de décider de la paix ?
Bien, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'il faut que l'ennemi accepte de reconnaître qu'il cesse maintenant le combat et donc qu'il reconnaît d'une certaine manière une certaine défaite. Alors évidemment, c'est très difficile à dire aujourd'hui.
Donc il faut attendre que le rapport de force soit très inversé en faveur de la partie juive, en tout cas de la nation juive.
En ce qui concerne les guerres d'Israël, bien entendu, cela veut dire que l'ennemi doit capituler. Il doit capituler, alors bien sûr, à des conditions à mettre. Et ça peut faire l'objet d'une négociation, en revanche. Mais la capitulation est nécessaire. Autrement dit, on ne doit pas présenter la paix comme simplement l'interruption des combats, ce qu'on appelle un cessez-le-feu, et puis en sachant très bien que cela n'a rien résolu. Parce que l'ennemi, au contraire...
Sur la ligne de front. Cessez-le-feu sur la ligne de front, c'est pas ce que recommande la halakha.
Exactement. C'est-à-dire que le cessez-le-feu, c'est toujours positif, bien sûr, mais on sait que ça n'est pas durable. C'est la préoccupation de la halakha. En cessant les combats, sans l'obtention de garanties réelles, c'est-à-dire sans la capitulation de l'ennemi, et en ne garantissant pas qu'il voudra revenir ou qu'il aura les moyens de revenir pour se venger, pour reprendre le territoire auquel il aura renoncé, etc., eh bien, dans ce cas, on ne fait que préparer un mauvais avenir. On n'a pas établi de véritable paix. Et les négociations doivent tourner essentiellement autour de cette idée. Comment fait-on pour que ce ne soit pas un simple cessez-le-feu, mais une paix durable, une paix qui ne remettra pas en cause la sécurité de l'avenir.
Merci Chaim Issemboum. Bon après-midi.
Bon après-midi à tous.
Radio J, 14h-15h, Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Et c'est sur ces mots que s'achève votre Grand Journal. Merci à vous de l'avoir suivi.
Radio J.
Vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission en podcast sur notre site radioj.fr et sur toutes les plateformes de streaming quand vous le voulez. À suivre le morning, je vous donne rendez-vous pour ma part à 14h en direct sur Radio J. Et d'ici là, portez-vous bien.
Le Grand Journal. Le Grand Journal. Steve Nadjar. Steve Nadjar. Yeah.
J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous.